Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h, Apolline Matin,
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, très bon réveil à tous, courage, courage, il fait chaud et ça va continuer, Géraldine nous le dira dans un instant, plus de 400 records de température battus hier en France et on pourrait avoir encore plus chaud aujourd'hui. Face à cette situation, les Français se ruent sur les clims, plus 60% en une semaine de demande. La climatisation, c'est la meilleure invention du 20e siècle, voilà le parti pris de notre voix de droite, Louis Sarkozy, il nous le dira à 7h50, c'est devenu politique, la clim, est-ce qu'il faut culpabiliser de demander un devis pour une clim, de l'installer? Est-ce que la clim, ça doit rester un luxe ou est-ce qu'au contraire, il faut démocratiser la clim? Est-ce que vous y êtes passé? Est-ce que vous y réfléchissez? Vous nous appelez, j'attends vos témoignages, vos réactions au 3216 ou sur le WhatsApp d'RMC 0612 424 424. Et puis nous reviendrons ce matin sur ces deux adolescents tués ce week-end par d'autres mineurs. Le premier à Rennes pour une histoire de vol de matériel de pêche. Le second pour un refus d'ajout sur TikTok. Comment expliquer cette ultra-violence des jeunes? À 7h40, nous serons avec un pédopsychiatre et on aura tous les chiffres. Et puis à 8h30, ne le manquez pas, le ministre de l'économie répondra à mes questions. Roland Lescure, c'est aujourd'hui que la plateforme pour obtenir l'aide des grands rouleurs ouvre enfin. Tout à l'heure, à 8h, vous pourrez commencer à demander vos aides gros rouleurs. Toutes les explications. Et Roland Lescure qui, la semaine dernière, disait encore que l'économie française résistait. Est-ce que franchement, il peut continuer à le dire? On y revient ce matin. On vous offre aussi des cadeaux sur la Coupe du Monde. Restez bien attentifs. Il y a encore des télés, des maillots et même un chèque de 10 000 euros à gagner. Ça peut tomber à tout moment. Il est 6h59. Dans un instant, le journal de 7h. Mais d'abord, la météo et Géraldine, c'est ces records de chaleur qui continuent de tomber.
Et encore une fois, bah oui, on a déjà eu 3 jours d'affilée, le jour le plus chaud jamais vu en mai. Ça pourrait encore être le cas aujourd'hui. 13 départements en vigilance orange canicule dans l'ouest, de la Bretagne jusqu'au département de la Manche, en descendant jusqu'à la Gironde. 29 autres départements en vigilance jaune. On sait qu'on a encore des records, ils sont tombés cette nuit. Cet après-midi, on pourrait atteindre localement les 38-39 degrés, notamment dans le nord de la Charente-Maritime. On attend 36 à Bordeaux, à Lyon, 35 à Rennes, Nantes, Bourges, Limoges, Perpignan, 34 à Paris, Clermont-Ferrand, Toulouse, 31 à Marseille, 30 à Lille ou à Brest. Et il va falloir attendre dimanche pour qu'on respire enfin un petit peu mieux.
Merci d'avoir choisi RMC. On est ensemble jusqu'à 9h. Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les ventes de climatiseurs et de ventilateurs, oui, qui explosent donc en ce moment avec la chaleur. On a recueilli les chiffres à RMC. Vous allez voir que les devis sont en augmentation de 60% chez un des acteurs majeurs du secteur. Des fusillades ont fait 2 morts hier soir à Nantes et à Grenoble sur fond de narcotrafic, encore une fois dans ces deux villes. Et puis on va revenir sur la fin du premier tour à Roland-Garros avec la sensation Moïse Kouamé et la déception Loïs Boisson éliminée dès le premier tour.
Et donc, c'est la ruée sur les clims et les ventilateurs.
Oui, il faut dire qu'il fait tous les jours un petit peu plus chaud. On a encore battu ou égalé plus de 400 records de chaleur. Hier, vient nous dire Géraldine, ce sera certainement pareil aujourd'hui. Et encore, le pire est à venir dans le sud-ouest. Vous êtes le correspondant de RMC, Pierre Bourgès. Et vous nous dites que donc la filière de la climatisation croule sous les appels en ce moment.
Oui, à commencer par les fabricants de climatiseurs. En une semaine, le nombre de sollicitations reçues par Daikin et Atlantic, deux acteurs majeurs du secteur, a été quasiment multiplié par 3. Il s'agit là de demandes pour choisir le bon climatiseur, pour connaître le prix, généralement compris entre 1000 et 4000 euros, ou pour être directement mis en relation avec des installateurs, nous expliquent les fabricants. Installateurs, eux aussi, fortement sollicités. Et partout en France, comme d'habitude, dans le sud-est et le sud-ouest, et de plus en plus en Île-de-France et jusqu'au Finistère depuis le début de cette vague de chaleur, précise à RMC Engie Home Service. Aquaclim, l'un des leaders dans l'installation de climatiseurs en Bretagne, indique que le nombre d'appels reçus a été multiplié par 4 en l'espace d'une semaine, notamment venant de personnes âgées et vulnérables.
Et alors on fait encore le constat que beaucoup de bâtiments ne sont pas équipés pour faire face à ces fortes chaleurs. On en parle beaucoup avec les écoles, mais nouvel exemple, tiens, écoutez, à la gare de Nantes qui a pourtant été rénovée récemment, c'était en 2020 avec une grande mezzanine, c'est très joli, mais Amélie Courtet s'y est rendue pour RMC et immersion avec elle.
Quand on rentre dans la gare, on est légèrement rafraîchi. Hein. Là maintenant, je monte jusqu'à la mezzanine vitrée où tout le monde attend son train. Dès qu'on arrive là-haut, par contre, l'air est lourd.
Il y a notamment des ventilateurs qui brassent de l'air chaud.
40 degrés ici, 5 de plus qu'à l'extérieur.
On a les gouttes de sueur qui coulent sur nos fronts. On a très très chaud.
Bah, tu vois, je m'étais dit, on va peut-être aller au sauna aujourd'hui, mais finalement, pas la peine. On est là, dans la gare de Nantes.
Des voyageurs épuisés. Valentin est assis par terre. Il joue à cache-cache avec le soleil.
Il faut essayer de trouver des coins d'ombre, même s'il n'y a vraiment pas d'air. Ça reste invivable.
D'autres s'éventent avec une feuille, s'agglutinent comme Ninon près de gros ventilateurs.
Ça me sauve parce que sinon, je me serais liquéfié.
À ce point-là.
On sent qu'à tout moment, on peut partir dans les vapes.
Des malaises, il y en a déjà eu parmi les commerçants, mais tous ont reçu pour consigne de ne pas parler.
L'année dernière, j'avais le droit à un ventilateur de la SNCF. Cette année, ils ont refusé.
Seul Pierre, vendeur, finit par accepter.
C'est encore plus compliqué. Déjà parce que les fortes chaleurs arrivent encore plus tôt. Mais pour l'instant, je vois pas d'amélioration. Du coup, ça me fait très peur pour l'été.
La SNCF promet d'installer un film sur les vitres d'ici quelques semaines pour réduire la température.
La ville de Bordeaux, où on sera en direct tout à l'heure dans le journal à 8h, active carrément son plan d'urgence face à la chaleur, ce qui normalement arrive en plein été et pas à la fin d'un mois de mai. Il y a des maires qui décident ou qui réfléchissent comme à Tours à mettre en place eh bien, des barrières au bord des cours d'eau pour éviter les noyades mortelles avec des comportements imprudents. Il y en a encore eu une hier, un jeune de 19 ans est mort à Cergy en tentant de traverser l'Oise à la nage.
Il est 7h04 sur RMC, la soirée a encore été émaillée de fusillades mortelles à Nantes et à Grenoble.
Oui, deux fusillades qui ont fait deux morts donc dans ces deux villes où ça se répète en ce moment. Quelles sont les infos, Victor Girard?
À Grenoble, la fusillade a éclaté vers 21h30 près d'un point de deal dans le quartier Mistral au sud-ouest de la ville. Selon le Dauphiné Libéré, quatre personnes se trouvaient devant un club de foot lorsqu'elles ont été prises pour cible par des tirs. Bilan, un mort et trois blessés, dont un avec pronostic vital engagé, transporté par les secours. Leur identité est pour l'heure inconnue. Quant aux tireurs, dont on ne connaît pas le nombre, ils ont pris la fuite à bord d'un véhicule, selon une source policière à RMC. Du côté de Nantes, c'est une demi-heure plus tard, vers 22h, que deux personnes à scooter ont ouvert le feu sur un individu, le touchant à la tête. La victime est morte. Selon Ouest France, elle était âgée d'un peu plus de 18 ans. Hier soir, des CRS ont été déployés dans la zone.
L'enquête a soudainement avancé hier à Rennes, où les deux adolescents de 15 et 16 ans qui étaient en garde à vue ont avoué le meurtre du jeune Théo, âgé de 11 ans, étranglé dimanche sur les bords de la Vilaine, sans doute pour une histoire futile de vol d'appât de pêche, un leurre de pêche. Les deux adolescents se seraient vengés, selon le procureur de Rennes. On va en reparler un petit peu plus tard ce matin sur RMC. Il y avait hier à Paris le tout premier procès en public dans le scandale du périscolaire. Un ancien animateur était jugé pour des agressions sexuelles sur 9 enfants et 2 collègues dans une école maternelle du 11e arrondissement de la capitale. Une peine de 3 ans de prison, dont un enferme a été requise. Mais un enferme sous bracelet électronique. Constance Bostoen, vous avez suivi ce procès au service police-justice à RMC et vous nous dites que ces réquisitions déçoivent les familles des enfants.
Oui, c'est précisément cet aménagement sous bracelet électronique qui ne satisfait pas les familles des 9 enfants. Comme l'explique maître Anna Kopp, elle représente 6 d'entre elles.
Je pense que les familles avaient comme souhait que le prévenu puisse faire un passage en détention pour qu'il prenne la mesure des faits qui lui sont reprochés. Et aujourd'hui, c'est ça la déception, puisque le procureur a considéré que malgré le risque de réitération de l'infraction, le prévenu n'avait pas lieu d'être placé en détention.
Quelques heures plus tôt, les parents se sont succédés très brièvement à la barre pour raconter le calvaire vécu par leurs enfants. Le tout sous le regard d'un prévenu très détendu qui n'a montré aucun signe de remords. L'homme de 36 ans à la carrure imposante, caché derrière de grandes lunettes dorées, a expliqué ne pas se sentir concerné. Et s'il a nié tout geste sexuel, il invoque toutefois un manque de formation de la part de la ville de Paris, comme le souligne maître Epoma, son avocat.
Il arrive dans un milieu où il doit travailler. Donc il travaille, il accomplit ses missions sans comprendre que c'était interdit d'avoir un certain type de contact avec les enfants. On ne lui a jamais appris ça.
La décision est attendue le 7 juillet prochain.
Et c'est dans ce contexte que le gouvernement va dévoiler ce matin au Conseil des ministres son projet de loi sur la protection de l'enfance avec l'idée de systématiser les contrôles d'antécédents judiciaires pour tous les adultes au contact d'enfants, à la fois les professionnels et les bénévoles. Le premier tour, je vous le disais, est terminé à Roland-Garros. Il y avait 9 Français qui jouaient sur les courts hier. 3 se sont qualifiés, comme le jeune Moïse Kouamé, 17 ans, la sensation impressionnante, 3-7 face au Croate Marin Cilic. 6 autres ont été éliminés, comme Clément Tabur, qui n'a rien pu faire dans la soirée face à l'Italien Yannick Sinner, faut dire que c'est le numéro 1 mondial, ou encore Loïs Boisson, sensation de la saison dernière à Roland-Garros, mais qui là a été balayé dès son entrée par la Russe Anna Kalinskaya, Julia Taxis.
Oui, et pourtant, le public du cours Suzanne Lenglen a bien tenté de pousser Loïse Boisson. Mais les supporters ont vite senti la Française résignée.
On l'a vu se retourner vers son coach maintes et maintes fois, dire qu'elle n'arrivait pas, on ne sait pas trop pourquoi.
Elle est dans détresse totale, elle sent qu'elle n'arrive pas à avancer, quoi.
Au bord des larmes, en conférence de presse, la joueuse de 23 ans a confirmé ce sentiment d'impuissance.
J'étais pas prête, j'avais juste pas de bonnes sensations tennistiques. Je sais que j'arrive à Roland avec très très peu de rythme à cause de toutes ces blessures, donc juste, il est là le regret.
Éloignée des terrains pendant 6 mois, revenue seulement fin avril, Loïse Boisson n'avait tout simplement pas les armes. Caroline Garcia, ex numéro 4 mondiale, elle ne s'inquiète pas pour la suite.
C'est vrai que c'était un tournoi qui est difficile pour elle par rapport au fait qu'elle n'a pas pu se préparer comme elle voulait. Je suis sûre qu'elle va pouvoir avec son équipe prendre beaucoup d'expérience de sa nouvelle position par rapport au public français et apprendre, et elle est jeune, elle vient juste d'arriver.
Si après cette défaite, Loïse Boisson va sortir du top 100, la Française est d'ores et déjà assurée de participer au prochain Grand Chelem sur le gazon de Wimbledon.
Il y aura 3 Français sur les cours aujourd'hui à Roland-Garros pour le début du deuxième tour et on vivra ça dès les premiers coups de raquette, comme on dit, à 11h sur RMC. Je vous donne aussi le résultat de la soirée en football. Le match nul 0-0 entre Saint-Etienne et Nice dans le match aller du barrage Ligue 1, Ligue 2. Match retour vendredi à Nice. Et quand on dit match nul, c'était vraiment nul. Il n'y a eu aucun tir cadré.
Vraiment nul.
Ouais, ouais.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h09 sur RMC et on parle chaleur, évidemment. On parle chaleur parce que ce sont plus de 400 records qui ont été battus hier et que ça va continuer et qu'il y a des bouilloires thermiques. Bonjour Maïder Olivier, vous représentez la Fondation pour le logement et vous avez décidé d'aller en justice pour dénoncer l'inaction de l'État face au risque climatique. Pour vous, ça n'est pas une question de confort, c'est une question de santé publique. Vous avez relevé jusqu'à 46 degrés dans un appartement à Paris sous les toits, des canicules de plus en plus fréquentes désormais. Il faut s'attaquer à cette urgence sanitaire. Voilà votre parti pris, vous le défendez dans un instant et je vous attends, vous qui nous écoutez au 3216, appelez-nous. Vous souffrez face à ces chaleurs? Est-ce que vous êtes dans une bouilloire thermique, impossible à rafraîchir, à refroidir chez vous? Est-ce que vous plaidez finalement pour la clim pour tous? Vous nous appelez au 3216, on vous attend.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. L'État a attaqué pour inaction face au risque climatique. Maïder Olivier, bonjour. Vous êtes chargé de plaidoyer pour la Fondation sur le logement des défavorisés, l'ancienne Fondation Abbé Pierre. Ce n'est pas une question de confort, c'est un enjeu sanitaire. Voilà ce que vous dites ce matin, une question de santé publique, faire face à cette chaleur extrême qui est mesurée dans un certain nombre de foyers qui n'arrivent plus à se rafraîchir. On parle désormais de bouilloire thermique. Vous attaquez carrément l'État pour urgence sanitaire?
Oui, tout à fait. On dépose aujourd'hui devant le Conseil d'État ce qu'on appelle une intervention volontaire. On saisit la justice parce qu'on considère que, au regard de différents risques climatiques, l'État ne respecte pas le droit international, le droit européen, le droit français, et ni le droit au logement d'ailleurs, et avec un certain nombre de risques. On parle des chaleurs, mais aussi les sécheresses qui viennent fissurer les maisons. Et tout ça, ça met en danger, en fait, aujourd'hui, la procrastination de l'État, elle met en danger la vie de millions de personnes en France.
Pourtant, l'État avait présenté l'an dernier, en tout cas c'est comme ça qu'il le disait, un grand plan national d'adaptation au changement climatique. C'est le gouvernement qui l'avait présenté en mars 2025, c'est pas à la hauteur?
Pas du tout, et c'est ce plan dont on demande la révision, parce que même s'il y a certaines pistes intéressantes, c'est vraiment souvent des petites mesures qui ne sont pas budgétées et qui du coup sont confrontées aux lois de finances chaque année, et donc qui perdent même le peu de moyens qui leur a été alloué. Donc aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'au regard des chiffres, des données scientifiques sur ces risques climatiques, et même au-delà des données scientifiques, les témoignages qui sont remontés des personnes, on n'est pas du tout à la hauteur.
Les témoignages que vous avez recueillis sont inouïs, c'est effectivement cette urgence extrême chaleur. On parle souvent l'hiver de ces passoires thermiques qu'on n'arrive pas à chauffer. Désormais, il faut aussi parler des bouilloires thermiques. C'est souvent d'ailleurs les mêmes, qu'on n'arrive pas à chauffer l'hiver, qu'on n'arrive pas à rafraîchir l'été. Il y a des températures qui ont été mesurées par votre fondation. Vous parlez de 46 degrés dans certains appartements qui sont sous les toits, en pleine canicule, sous le zinc de Paris. Mais c'est le cas aussi d'un certain nombre de petite maison mal isolée.
Ouais, bien sûr. C'était pendant la canicule de 2022. Il y a une personne, voilà, sous les toits qui nous racontait que quand il y a eu un pic de chaleur à Paris à 41 degrés, il faisait 46 degrés chez elle. Donc, c'est même pas que le logement ne protège pas de la chaleur à l'extérieur, c'est qu'il peut même exacerber la chaleur qu'on va ressentir dans le logement. Et en fait, il n'y a pas besoin d'atteindre 46 degrés pour que ce soit dangereux pour la santé. C'est pas juste une question de confort, c'est pas subjectif. On va pas tous s'adapter. C'est vraiment, il y a l'Organisation mondiale de la santé fixe des températures au-delà desquelles c'est dangereux de vivre dans un logement. Et en fait, au-delà de 30 degrés déjà, c'est dangereux. Si on ne descend pas en dessous de 25 la nuit, le corps se fatigue et c'est tous les risques sur la santé qu'on encourt.
Et c'est très important, je trouve, effectivement, dans ce que vous dites ce matin, c'est que vous ne parlez pas d'une question de confort, c'est pas une histoire de confort. Pendant longtemps, on avait presque l'impression qu'on disait, oh, ça va, t'as qu'à ouvrir la fenêtre ou prendre sur toi. C'est une... Non, c'est pas une question de confort, c'est une question de santé. Face à ça, évidemment, et ce pic de chaleur extrêmement précoce que l'on traverse, on a ce chiffre qu'on vous présente aussi ce matin. 60% de plus de demandes de devis de clim. Et d'ailleurs, Itab est avec nous en direct, qui nous appelle de Gironde. Vous êtes installateur de clim. Bonjour Itab.
Bonjour, oui. Oui,
alors j'imagine que vous faites face à ces demandes ?
Ah oui, tout à fait. Ouais. Là, je me sens comme un docteur, du coup.
Ouais.
On m'appelle, on veut la clim pour hier. Donc ouais, c'est vrai que là, c'est la demande, elle est doublée en ce moment. Et du coup, moi je voulais dire en fait que ça devient vital, quoi. La clim, elle devient vitale comme. On a des températures comme en Espagne ou comme en Asie, et je sais moi que quand on voyage, on voit qu'en Espagne ils ont des groupes extérieurs, enfin ils ont de la clim partout, quoi. Et je pense que ça va devenir comme ça en France, c'est-à-dire que maintenant c'est ça devient vital.
Qui vous appelle, Itab? Est-ce que désormais, parce qu'on a l'impression que la clim avant c'était un luxe et que désormais c'est juste vital?
Ah non, c'est des clients lambda. Moi, je sais que, bon, après, une question de budget, mais les gens ils craquent leur budget parce qu'ils n'arrivent pas à dormir la nuit. Ils veulent absolument la clim, ils la veulent rapidement. Et en fait, ils me disent, ouais, voilà, j'ai pas dormi de la nuit. Donc, il y en a où c'est des gens qui ont leur femme enceinte et ça devient compliqué, ou des enfants en bas âge, ou après des personnes âgées. C'est de tout type de catégorie qui m'appelle. Avant, c'est vrai que c'était plutôt, on va dire, un confort, un luxe d'avoir la clim. Maintenant, c'est un besoin vital. Il faut la clim comme en hiver, il faut le chauffage. En été, il faudra la clim.
Merci, Itab. Je voudrais justement que Maïder Olivier puisse répondre. On n'envisage pas, évidemment, aujourd'hui, et ça n'est même plus possible, ça ne serait pas envisageable, de louer un logement sans chauffage. Est-ce qu'il faut désormais imposer que si on loue un logement, ou même qu'on est bailleur social, on ait un logement qui puisse être chauffé l'hiver et rafraîchi l'été?
En tout cas, nous, sur la climatisation, on dit que ça doit être un dernier recours. C'est-à-dire qu'on peut pas, évidemment, on comprend que les personnes aujourd'hui, face à l'absence de d'autres solutions, que les personnes demandent l'installation de clim, parce que c'est une solution immédiate, efficace. Par contre, on dit aussi que c'est une forme de maladaptation au changement climatique, parce qu'en fait, la climatisation, on rejette l'air chaud à l'extérieur, et donc ça va renforcer la chaleur ressentie pour les voisins, qui n'en ont pas forcément. Nous, à la Fondation pour Logement, on est particulièrement sensible à la situation des personnes qui sont à la rue. Donc c'est quand même assez inégalitaire encore aujourd'hui, le recours à la clim. On voit qu'en fonction de sa catégorie socio-professionnelle, on n'est pas du tout
équipé de la même manière. Mais précisément, ça ne doit pas être démocratisé. Parce que alors sur la question écologique, qui a un grand débat aujourd'hui, quelqu'un comme Jean-Marc Jancovici par exemple, qui est à la pointe de l'écologie, lui dit au fond, en réalité, on a beaucoup culpabilisé les gens d'avoir une clim, mais parce que c'était une époque où les clims étaient très chronophages en énergie, ce qui est beaucoup moins le cas. Et surtout, il dit aujourd'hui, on en fait beaucoup d'électricité, en particulier dans les moments de grande chaleur, parce qu'on a un surplus d'électricité, notamment dû aux panneaux solaires. Donc c'est un moment où, de toute façon, mécaniquement, en réalité, ça n'est plus forcément, en tout cas à ses yeux, un problème écologique. C'est devenu presque un problème de démocratie ou d'accès des plus modestes aussi à cela.
Et encore une fois, en fait, aujourd'hui, c'est quand même un peu un non-sens d'installer des clims dans un logement qui n'a même pas de volet, parce que c'est encore beaucoup la réalité. En fait,
la question
qu'il faudrait
aussi, c'est déjà qu'il puisse être rafraîchi.
Qu'il y ait toutes ces solutions sobres qui n'ont pas de coût aussi pour les ménages, parce qu'en fait, la climatisation, c'est quand même pas neutre en consommation d'électricité. EDF dit que c'est environ plus 15% de consommation d'électricité.
Vous imagineriez pas de dire à quelqu'un de pas mettre son chauffage l'hiver?
Oui, bien sûr que non, mais en fait, parce qu'il n'y a pas forcément... Une fois que le logement est isolé, bah oui, évidemment, on met le chauffage pour augmenter la température.
Mais le logement n'étant pas isolé, vous n'allez pas dire à quelqu'un, bon bah du coup, ne mettez pas le chauffage.
Non, bien sûr que non, et de toute façon, nous, on ne dit pas aux personnes qui ont la clim de ne pas la mettre si elles n'ont pas d'autres solutions. Par contre, ce qu'on dit, c'est que quand on est bailleur, les bailleurs sociaux, l'État doit quand même lancer des grands plans d'installation de volets. Il y a aussi des alternatives, les brasseurs d'air plafonniers, ça consomme beaucoup moins d'énergie et c'est très très efficace pour rafraîchir le logement. Et donc voilà, en fait, la clim doit être un dernier recours. On n'est pas du tout anti-clim, mais il faut vraiment que ce soit la dernière alternative.
Il faut trouver des solutions pour rafraîchir ces logements. Vous pensez effectivement à tous ceux qui aujourd'hui se retrouvent dans ces bouilloires thermiques et vous attaquez donc l'État face au Conseil d'État. Merci d'avoir défendu votre parti pris ce matin. Maïder Olivier, je rappelle que vous représentez ce matin la Fondation pour le logement des défavorisés. C'est l'ancienne Fondation Abbé Pierre. Merci à vous. Et la clim, c'est devenu politique. Louis Sarkozy, d'ailleurs, la voix de droite, puisque c'est mercredi ce matin. Hier, c'était Cécile Duflot, d'ailleurs, l'ancienne ministre du Logement. Aujourd'hui, c'est Louis Sarkozy, chacun sa voix. Et Louis Sarkozy, il plaide pour la clim pour tous. Il estime même que c'est la seule solution désormais face aux canicules. Venez débattre avec lui. On vous attend au 32-16. Il est 7h21. Arthur Chevalier rentre dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
On va remonter le temps avec vous comme chaque matin et vous allez revenir sur une histoire assez étonnante qui concerne le détroit d'Ormuz.
Et oui, et cette histoire a lieu en 1515, l'année de la bataille de Marignan, mais cette date, c'est aussi un tournant de l'histoire du détroit d'Ormuz.
Vous nous le direz dans un instant. Arnaud Demange vient pirater le face-à-face. Mon invité ce matin, c'est le ministre de l'économie, Roland Lescure. Il est 7h21.
RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure de remonter le temps. Il est 7h22. Arthur Chevalier est avec nous. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Alors toujours de très grosses tensions autour du détroit d'Ormuz. Hier, une explosion a endommagé un pétrolier au large d'Oman. Des frappes la veille. Les Iraniens contrôlent toujours le détroit.
Oui, et le ministre des Affaires iranien s'est défendu en début de semaine d'imposer un péage dans le détroit. Alors avec beaucoup de mauvaise foi, il a affirmé qu'il s'agissait seulement de frais de navigation et des mesures nécessaires à la protection de l'environnement. Ben voyons. Les déclarations qui, bien sûr, n'ont rassuré personne, hein, puisque dans les faits, il n'y a strictement aucune différence entre un péage et ses soi-disant frais de navigation.
Et ça vous rappelle une époque où le passage du détroit d'Ormuz était précisément payant.
Et oui, et ça remonte quand même, hein, puisque c'était au début du XVIe siècle. À ce moment-là, l'île d'Ormuz, qui est iranienne aujourd'hui, était un royaume, un petit royaume par la taille, mais central dans ce fameux détroit. Hein. À la même époque, en Europe, un pays est en train de devenir une superpuissance. Ce pays, c'est le Portugal. Alors, il dominait les mers, il agrandissait sans cesse son territoire. Ce qu'il voulait, c'était contrôler un maximum de voies commerciales. Et justement, un des passages les plus lucratifs à la croisée de l'Inde et de l'Asie, c'était le détroit d'Ormuz.
À ce moment-là, le Portugal va tout simplement décider de s'emparer de l'île d'Ormuz.
Eh oui, exactement. Pour ça, il envoie une énorme flotte de navires de guerre avec à sa tête un de ses plus grands capitaines. Ce capitaine, il s'appelait Alfonso de Albuquerque. La conquête commence en 1507, elle s'achève en 1515. Cette date d'ailleurs, vous la connaissez, puisque 1515, c'est l'année où le roi de France, François Ier, a remporté la bataille de Marignan, un hasard de l'histoire.
Donc 1515, c'est pas que Marignan désormais, on le saura, c'est aussi le détroit d'Ormuz, puisque c'est donc à partir de 1515 que les Portugais établissent ce péage du détroit.
C'était exactement le but de l'opération en fait. Les Portugais construisent d'ailleurs une forteresse, ils verrouillent le détroit en imposant une taxe donc pour tous les navires qui n'étaient pas portugais. Cette taxe, elle avait un nom, c'était la cartaz. Elle enrichira considérablement le Portugal et ce péage maritime va quand même durer plus d'un siècle. Hein.
J'imagine que ça ne plaisait pas à tout le monde.
Ça ne plaisait même à personne en fait, à part le portugais forcément. Hein. Et en 1622, donc un siècle plus tard, les Anglais et l'Empire perse, donc en fait les Iraniens à l'époque, décident de s'allier pour éjecter les Portugais du détroit d'Ormuz, ce qu'ils parviennent à faire. Et à partir de là, une idée va s'imposer dans le commerce international. Cette idée, c'est la liberté des mers pour favoriser les échanges. Et les Anglais vont s'appliquer tout de suite ce principe en imposant la liberté de passage dans le détroit d'Ormuz.
En Iran, aujourd'hui, il reste quelque chose de cette époque.
Quelque chose de très important, Apolline, une journée de commémoration nationale pour célébrer cette victoire contre les Portugais en 1622. Elle existe depuis 2005, cette journée, ça s'appelle la Journée nationale du Golfe Persique. Inutile de vous préciser que cette année, le régime iranien l'a célébré comme il se doit. Hein. C'était le 30 avril dernier, le jour était férié et placé sous le signe du patriotisme, comme un défi lancé à la puissance américaine.
1515, Ormuz désormais, on s'en souviendra. Merci Arthur Chevalier. Arnaud Demange nous rejoint.
RMC,
Demanche Pirate, le face-à-face.
Et bonjour.
Salut Arnaud, à 8h30 tout à l'heure, mon invité dans le face-à-face, ce sera le ministre de l'économie, Roland Lescure.
Oui, Roland Lescure qui a deux métiers, hein, d'ailleurs, il est ministre de l'économie et également sosie officiel de Nicolas Canteloup.
Oui.
Vous pouvez l'engager pour des soirées d'entreprise, il viendra vous faire
« Oui, je suis Ségolène Royal ».
Il imite moins bien que l'original quand même. L'original à 8h50. Donc il est ministre de l'économie, mais on n'a pas d'économie. Il est ministre des Finances, mais elles sont dans le rouge. Ministre de la Souveraineté Industrielle, mais il y a les Chinois. Ministre de la Souveraineté Énergétique, mais le détroit d'Ormuz est fermé. Ministre de la Souveraineté Numérique, mais il y a Elon Musk. En gros, il a plein de portefeuilles, mais ils sont tous vides. Voilà. Eh ben, ça nous fait un point commun. Roland Lescure vient de confier à 4 économistes indépendants une mission spéciale, analyser le budget et réfléchir à des trajectoires pour redresser les finances. Et c'est vrai, c'est une bonne idée de demander à des spécialistes en économie de regarder notre économie. Pourquoi on n'y a pas pensé avant? Donc il est allé voir Emmanuel Le Chypre, il lui a dit « Vous voulez pas regarder mon budget? Parce que moi l'économie, c'est pas mon domaine à la base, hein, c'est pas mon truc. Hein. Moi mon truc c'est les imitations. Oui, je suis Ségolène Royal.
Ouais. Bah tu sais quoi? T'es aussi bon en imitation qu'en économie.
Oh, merci. C'était qui?
Ça
veut dire quoi alors? Tiret 3000 milliards.
C'est pas un tiret, c'est un moins.
Vous vous êtes fait un petit peu avoir par les imitations.
Dans les voix, voilà, il y a tellement de richesses. C'est le plus grand cabaret du monde ici.
C'est beau.
Vous parlerez de l'essence. Alors, oui. Moi, ça y est, hein, j'ai fait le plein de la Twingo hier, c'est 100 balles maintenant. C'est-à-dire que mon plein vaut plus cher que ma voiture. Et alors, il y a des bonnes nouvelles pour les gros rouleurs. Les gros rouleurs.
Non, c'est pas cela.
Alors, pour obtenir les aides, c'est très simple, alors, Apolline, c'est très simple. Tout est authentique. Il faut justifier que vous parcourez 30 km par jour pour travailler ou bien 8000 km par an au volant d'un véhicule terrestre à moteur à 2, 3 ou 4 roues, motorisation thermique ou hybride non rechargeable, assuré, pas déclaré endommagé, tout en excluant évidemment les véhicules agricoles, les poids lourds, les véhicules de fonction et les véhicules de service.
Oui.
Ensuite, vous fournissez votre numéro fiscal, votre revenu fiscal de référence 2024.
Ah,
attention, il y a un piège.
Oui.
Immatriculation, carte grise, puis vos noms, prénoms, adresses, carte d'identité, un chèque de caution de 600 euros, deux garants qui gagnent 10 fois le montant d'un plein, an de fiche de paye, trois formulaires SERPA autorisant l'État à vous prélever un rein, puis vous faites un tour sur vous-même et vous changez de partenaire, et au bout de 10 jours, vous obtenez 100 euros. Voilà. Vous avez
fait
4 jours de congé pour les avoir, mais vous les avez. Enfin, Roland Lescure vous détaillera tout ça de 8h30 à 16h45. Alors prévenez les GG, on va un peu déborder. Et à tout à l'heure.
Bah, le temps de remplir le certificat. Et je vous retrouve à 8h15 à Arnaud Demanche. Il est 7h28. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Géraldine vous le dira, il continue à faire très très chaud et on devrait encore battre des records aujourd'hui. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texa. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Du matériel de pêche volé, cela peut paraître futile, mais c'est ce qui a coûté la vie à Théo, 11 ans, étranglé sur les bords de la Vilaine, dimanche à Rennes. L'impuissance des mers face à la chaleur, les baignades sauvages inquiètent encore. 2 personnes sont mortes noyées hier. Et la baisse des ventes de tabac qui s'est poursuivie en 2025 à des niveaux toujours plus bas. La tendance se confirme, les Français fument de moins en moins.
Ils sont passés aux aveux.
Les deux jeunes mineurs soupçonnés d'avoir étranglé Théo, 11 ans, retrouvé mort sur les bords de la Vilaine dimanche à Rennes, tué Pierre Bazin pour avoir volé du matériel de pêche.
Oui, c'est en tout cas ce qu'ont indiqué en garde à vue le jeune homme et la jeune femme soupçonnés du meurtre de Théo. Le mis en cause âgé de 16 ans a expliqué aux enquêteurs qu'il avait rencontré la victime la veille et qu'ils avaient décidé de pêcher ensemble le jour du drame, selon Frédéric Théillet, le procureur de la République de Rennes.
Les deux mis en cause admettent s'en être pris à Théo et notamment l'avoir étranglé. Puis ils ont pris la fuite en emportant le matériel de pêche et les affaires de Théo. Ils affirment s'en être pris à Théo pour se venger et pour récupérer des leurres de pêche d'une valeur de quelques dizaines d'euros que Théo leur aurait pris.
Les affaires de la victime ainsi que le matériel de pêche ont en effet été retrouvés au domicile des deux suspects, tous deux inconnus jusque-là des services de police.
Deux fusillades hier soir à Nantes et Grenoble à quelques minutes d'intervalle. Bilan, 2 morts avec à chaque fois la piste d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Précoce et inédite, cette vague de chaleur qui se poursuit sur le pays avec de nouveaux records attendus aujourd'hui pour un mois de mai. 400 ont été battus ou égalés hier, certains datés de la veille. 13 départements sont ce matin en vigilance orange canicule. Pour autant, le risque sanitaire est écarté, dit la ministre de la Santé, qui rappelle les bonnes pratiques, s'hydrater, éviter les efforts physiques, se rendre dans un endroit frais. Dans ce contexte, le nombre de signatures de devis pour l'installation d'une climatisation explose, en hausse de 60% la semaine dernière par rapport au début du mois de mai, nous dit Engie. On en reparle dans le journal de 8h. Se rafraîchir donc, mais pas à n'importe quel prix. Depuis samedi, on dénombre plusieurs noyades mortelles en France. 2 sur la seule journée d'hier, dans l'Oise et dans la Manche, souvent dans des zones interdites à la baignade. Difficile pour les élus de faire respecter les consignes de sécurité. Illustration à Vers-sur-Marne. Cassandre Brault, Antonin Audion.
Baignade interdite, le site n'est pas surveillé, il n'est pas aménagé.
Un panneau d'avertissement, comme on en trouve souvent le long du rivage, ici, à Vers-sur-Marne. Daniel Vatelet est le maire de la ville.
Ce que les jeunes ne comprennent pas souvent, c'est qu'il peut y avoir des courants invisibles, il peut aussi y avoir des objets dans l'eau. Il y a de la vase aussi, donc si jamais ils restent plantés dans la vase, ils ne pourront plus remonter et puis ils peuvent se noyer.
Mais juste à côté...
Vous savez que c'est interdit la baignade ?
Le maire interpelle un groupe en train de faire des plongeons dans la rivière.
Il y a un jeune comme vous qui s'est noyé, il est resté bloqué dans la vase et s'est noyé.
Donc c'est juste de se rafraîchir un petit peu.
Les cheveux trempés. Anto sort à peine de l'eau.
On est conscient qu'il y a un risque. Moi, je sais que j'ai nagé.
Un peu plus loin, des cris se font entendre. Un groupe d'une vingtaine de jeunes est réuni au bord de l'eau.
Il fait chaud, du coup, on est obligé de se baigner.
On n'a pas conscience du danger. En vrai, ça passe par-dessus la tête.
D'abord, on était à un autre lac tout à l'heure. Et la police, ils sont venus, ils nous ont dit de partir et tout. Et après, on est venus ici.
D'où le sentiment d'impuissance que Daniel Vatelet partage avec d'autres maires.
Ils savent que c'est interdit et pourtant, ils y vont quand même. Donc là, je pense qu'avec la meilleure volonté du monde, on est un peu dépourvu.
Le maire d'une commune voisine a même décidé d'installer des barbelés le long du rivage pour dissuader les baignades sauvages.
Les espoirs de paix menacés au Moyen-Orient, frappé hier, l'Iran accuse les États-Unis d'avoir rompu le cessez-le-feu. Un regain de tension qui fait grimper les cours du pétrole ce matin. Pas de baisse en vue sur les prix à la pompe en France, mais une aide bienvenue, 100 euros pour les grands rouleurs. Il faut la réclamer via une plateforme. Elle ouvre dans une demi-heure. Maintenant, êtes-vous concerné par ce dispositif ? Victor Joannin vous répond.
Cette aide est réservée aux travailleurs, salariés ou indépendants. Pour en bénéficier, il faut donc avoir perçu un salaire ou des bénéfices commerciaux ou agricoles, et c'est l'année 2024 qui est prise en compte. Munissez-vous de votre avis d'imposition de l'année dernière qui vous permettra d'indiquer votre revenu fiscal de référence par part. Si ce revenu est inférieur à 16 880 euros, vous êtes éligible. Cela correspond à 1 508 euros net par mois pour une personne seule. Il faut aussi déclarer sur l'honneur que vous utilisez votre voiture, thermique ou hybride, pour aller au travail, avec au minimum 30 km aller-retour ou 8000 km annuels. L'aide sera versée dans les 10 jours directement sur votre compte bancaire et gare aux tricheurs, l'administration pourra réaliser des contrôles a posteriori.
Les Français fument-ils moins ? La réponse est oui, nous dit une étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives publiée ce matin à son niveau le plus faible depuis 2000. Cela se traduit aussi par une baisse des ventes de tabac en recul de 8% l'an dernier par rapport à 2024. Les fumeurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des dispositifs d'aide à l'arrêt et ça semble plutôt bien fonctionner, Lucas Lauvergne.
Pendant plus de 30 ans, les pauses cigarettes ont rythmé le quotidien d'Olivier.
3 paquets par jour. Moi, j'adorais ça.
Mais un jour, c'est le déclic. Son médecin le sermonne. Si vous continuez, vous allez finir par mourir, lui dit-il.
Cigarette égale cercueil. Je peux bien voir mes enfants grandir. Donc, j'ai dit, bon, on va faire quelque chose.
Charles Hugo a essayé plusieurs fois d'arrêter la cigarette, mais ce qui lui a permis de stopper définitivement, c'est le mois sans tabac.
C'est pas mal comme période pour s'y mettre. Il y a une espèce d'engouement collectif qui donne plus de force.
Pour pallier le manque, certains se mettent à la cigarette électronique. D'autres se tournent vers des traitements de substitution de nicotine comme le patch ou les gommes par voie orale. Entre 2024 et 2025, les ventes de ces traitements ont augmenté de 7%. Lucas en a fait l'expérience.
C'est super les gommes, ouais. Il y a de la nicotine qui se diffuse dans le corps petit à petit. Ça a été utile pour des journées de travail en tout cas, ouais.
Des traitements que le professeur Bertrand Dautzenberg, tabacologue, conseille à tous ses patients.
La cigarette donne envie de fumer la suivante. Les substituts nicotiniques font qu'il n'y a plus d'augmentation des besoins de nicotine et les besoins de nicotine baissent en gros en 100 jours ou 1% par jour.
Selon lui, le mieux reste de se faire accompagner par un professionnel de santé pour déterminer au mieux la dose de nicotine à prendre au quotidien.
Une éclaircie au sombre tableau tricolore à Roland Garros. Moïse Kouamé, vous ne le connaissez peut-être pas, mais à 17 ans, le Français a battu Marin Cilic hier au premier tour. C'est terminé pour Loïs Boisson. Pour la première fois depuis 1980, deux Françaises seulement sont qualifiées pour le second tour qui débute aujourd'hui. Trois Français à suivre sur les cours, sur RMC, sur la radio digitale 100% terre battue. Au bout de l'ennui, Saint-Étienne et Nice se quittent sur un match nul et vierge en barrage aller d'accession à la Ligue 1. C'est donc vendredi que les deux équipes joueront leur place dans l'élite. Et puis un mot des Spurs de Victor Wembanyama battu cette nuit. Ça fait 3-2 pour Oklahoma City en finale NBA de Conférence Ouest, avec un match peut-être décisif demain soir. Et puis les courses du côté de Strasbourg, rendez-vous à 13h55. Le 4, Shriara est le favori de la Dream Team RMC. L'outsider, c'est le 6, Concerto, le 4 et le 6.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h38 et c'est l'heure de jouer. Ça y est, c'est le moment de jouer et de vous inscrire pour tenter d'emporter jusqu'à 10 000 euros ou le pack Coupe du Monde. Un vidéoprojecteur, un maillot des Bleus, un ballon officiel, une boîte Lego du trophée. Et ça, honnêtement, c'est la petite cerise sur le gâteau. Venez sélectionner un joueur dans la liste des 26 et vous repartirez avec un cadeau incroyable. C'est le moment de vous inscrire. Vous envoyez liste au 7-32-16. Liste au 7-32-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Il fait chaud. Et comment réussir à se rafraîchir? Didier nous appelle de Loire. Vous êtes à Châteauneuf. Bonjour Didier.
Oui, bonjour. En fait, non, je ne suis pas trop à Châteauneuf, je suis au travail. Là, je suis sur Givors.
Ah, vous êtes passé sur Givors. Vous êtes au boulot à 7h38. Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Oui, je suis agent de maintenance. Je suis dans un collège de la métropole de Lyon.
Il fait chaud.
Mais on a eu la chance d'avoir une cour qui a été végétalisée par la métropole de Lyon.
Donc la cour a été végétalisée, ça change tout?
Oui. Ah bah carrément, hein. Carrément.
Et vous avez couplé ça, je crois, avec des panneaux solaires?
J'ai un plancher chauffant qui fonctionnait au fioul. La maison, elle a 25 ans.
Ouais.
Il a fallu qu'on change de méthode de chauffage. Donc, on est passé sur une pompe à chaleur réversible.
Ouais.
Donc, ce qui nous permet de rafraîchir le plancher. Ça ne fait pas comme la clim. Ça ne fait pas, je crois, comme la clim, mais ça rafraîchit le plancher.
Donc, vous avez ça vous chauffe l'hiver et ça vous rafraîchit l'été.
Voilà. Et du coup, on s'est dit, mais pourquoi consommer de l'électricité alors qu'il y a du soleil? Du coup, moi, j'ai fait mon installation photovoltaïque. J'en ai eu pour à peu près 5 000 euros il y a 3-4 ans, même 4 ou 5 ans même. Et donc, c'est moi qui l'ai installé. J'ai pris un opérateur qui s'appelle Urban Solar sur Lyon, qui a une batterie virtuelle. Donc, en fait, quand on branche la pompe à chaleur et qu'il y a du soleil, donc ça ne nous coûte rien du tout. Si nos panneaux solaires produit plus d'énergie qu'on en consomme, ça repart sur le réseau. Notre opérateur, il a une batterie virtuelle, il nous cagnotte nos kilowatts en plus. Et la nuit, quand on ne produit pas d'électricité, on récupère nos kilowatts qu'on a envoyés sur le réseau la journée.
Donc c'est totalement gagnant, c'est-à-dire que 5 ans après,
Oui, c'est gagnant-gagnant.
Donc non seulement la pompe à chaleur vous permet de rafraîchir, mais en plus, elle utilise votre propre électricité.
C'est ça.
Merci beaucoup d'avoir témoigné. Excellent témoignage, Didier, de pouvoir partager ce matin avec tous ceux qui nous écoutent et qui cherchent à trouver des solutions pour rafraîchir leur maison. Merci Didier. Il est 7h40 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h44 sur RMC et RMC Story. 11 ans tué pour un leurre de pêche. Deux drames ce week-end. Théo, 11 ans, je le disais, étranglé à Rennes, puis noyé pour des leurres de pêche. Et puis cet ado de 17 ans, poignardé dans un camping de Seine-et-Marne pour un refus d'ajout sur TikTok. Bonjour Stéphane Clerget, vous êtes pédopsychiatre, vous êtes l'auteur de « Les mots de vos ados », c'est aux éditions Solar. Vous rencontrez tous les jours dans votre cabinet des jeunes. Comment est-ce qu'on peut expliquer que pour une telle futilité, ce soit la mort?
Alors, l'explication est sans doute plurielle. Il faudrait connaître ces adolescents parce qu'encore une fois, chaque cas est particulier, mais on assiste en tout cas à une montée de la violence chez une minorité des adolescents. Encore une fois, la majorité vont bien, régulent bien leurs émotions, mais une certaine minorité de plus en plus violente, de plus en plus impulsive, réagit de plus en plus dans l'immédiateté et supporte de moins en moins les frustrations. Donc ça peut aller effectivement jusqu'au passage à l'acte mortel.
Au passage à l'acte mortel, dont on sent qu'il n'est pas forcément prévu, ce jeune, prenons cette affaire, on n'en connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais il avait 11 ans, semble-t-il, il avait rencontré ses bourreaux la veille, ils ont prévu une partie de pêche, ils partent avec des leurres, les deux autres jeunes se connaissent, 15 ans et 17 ans, une fille et un garçon, et en quelques instants, c'est le drame, la bascule, semble-t-il, pour une histoire futile, de leurre que l'un aurait cru prêter et que l'autre aurait dit voler. Vous le disiez, il n'y a pas forcément plus de jeunes violents, mais ceux qui le sont davantage. La question de la conscience de la mort que l'on donne, comment est-ce que vous l'analysez, vous ?
Il est certain qu'à cet âge-là, l'anticipation est moindre que chez des criminels adultes, par exemple. Et la conséquence des actes est moindre aussi. C'est-à-dire qu'on n'anticipe pas forcément la gravité des actes qu'on va commettre. On réagit beaucoup à ces âges-là dans l'impulsivité. Évidemment, il y a des facteurs favorisants. Le fait d'avoir grandi dans une famille où tout le monde est très impulsif et violent, par exemple. Le fait d'avoir certains troubles psychiatriques qui font qu'on a du mal à se réguler. Mais aussi une éducation où on nous met jamais de limites et on a un sentiment de toute puissance sans conséquence de nos actes.
C'est une question de rapport à l'éducation et à l'autorité ?
Il y a sans doute plusieurs facteurs. Oui, bien sûr que les facteurs éducatifs jouent un rôle. La violence sociétale dont les ados sont les premières victimes et qui sont contaminés par ça joue un autre rôle, les troubles psychiatriques. Et puis, évidemment, on se pose des questions sur l'impact des contenus violents auxquels les adolescents n'ont jamais été autant exposés. Pornographie violente, images violentes, il n'y a pas eu vraiment d'études qui permettent de
l'affirmer. Une sorte de banalisation du mal ?
Tout à fait. Une banalisation de la violence, ça c'est certain. Et sur les réseaux, elle apparaît également. Alors, on ne voit pas toujours de la violence sur les réseaux, mais quand on s'intéresse à la violence et qu'on va sur les réseaux, les logiciels vont nous soumettre que de la violence sur les réseaux.
On parle beaucoup aujourd'hui de la question de l'égalité garçon-fille, mais là, il y a une inégalité des... très importante, puisque 93%, et ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, 93% des auteurs, notamment d'homicides ou de tentatives d'homicide, sont des garçons.
Ben, il serait bien qu'on se penche un peu sur cette question, parce que ça remet en question l'éducation des garçons. On n'éduque pas les garçons et les filles de la même manière, manifestement. Encore aujourd'hui, la preuve, les chiffres sont là. Et vous avez dans les prisons, ce sont essentiellement des garçons. Ça ne veut pas dire que la délinquance des filles n'augmente pas, elle augmente. Il se trouve qu'elle est beaucoup plus verbale que physique. Donc ce simple fait-là devrait nous pencher sur comment est-ce qu'on éduque nos garçons, est-ce qu'on leur apprend bien à contrôler leur frustration, et puis quelle image leur donne-t-on de la virilité ? Qu'est-ce qu'être un homme ? Est-ce que c'est être un homme qui est violent, que de ne pas respecter les règles ?
On a parlé régulièrement aussi de la question des réseaux sociaux, et j'étais très frappée par une analyse que l'on peut quasiment faire chacun. Quand un ado aujourd'hui s'inscrit, par exemple sur TikTok, en quelques clics dans les tout premiers contenus qui lui sont proposés. Si c'est un garçon, il va avoir du contenu viriliste. Si c'est une fille, ce sera plutôt justement anti-garçon. Ce retour d'une sorte de virilisme exacerbé, de masculinisme, comme on dit, c'est aussi un problème aujourd'hui ?
Oui, ça l'est, bien sûr. Ça fait partie des facteurs favorisants sur la façon dont on se perçoit, la façon dont l'adolescent pense qu'il doit se contenir et se comporter, ça a un impact tout ça. Donc oui, le contenu des réseaux sociaux aussi peut être préjudiciable.
Stéphane Clerget, je le rappelle, vous êtes pédopsychiatre et vous avez écrit Les mots de vos ados. Est-ce qu'il y a des signes ? Est-ce que ceux qui nous écoutent doivent être attentifs à quelques signaux, à quelques signes ? Comment anticiper pour justement mieux éduquer ?
Alors beaucoup de parents, ils sont sensibles et perçoivent dès la petite enfance des comportements violents, des intolérances à la frustration et viennent demander de l'aide par rapport à ça. Parce que les choses doivent se prendre en charge très précocement. Et à l'adolescence aussi, il y a des adolescents qui commencent à être violents avec leurs petits frères et sœurs, violents aussi avec leurs parents, et ces parents doivent pouvoir demander de l'aide. Parce que seul avec un ado ou deux ados, c'est difficile.
On ne doit pas accepter que ces colères, que ces axes de violence, accès de violence se développent.
Oui, on doit prendre ça comme un symptôme dangereux et on doit tout faire pour aider l'adolescent à réguler, à exprimer verbalement les choses, parce qu'on assiste à une baisse aussi du niveau de langage des ados. Depuis une quarantaine d'années, ils expriment moins leurs émotions verbalement, ce qui favoriserait aussi sans doute les passages à l'acte physique.
Merci. Merci beaucoup pour votre analyse ce matin. C'était Stéphane Clerget. Je rappelle le titre de votre livre, Les mots de vos ados, c'est aux éditions Solar. Merci à vous. Il est 7h50, c'est mercredi, la voix de droite. Louis Sarkozy, bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Dans un instant, votre parti pris ce matin, c'est qu'il faut de la clim pour tous.
Le fait que la mairie d'arrondissement tourne à 19 degrés pendant que l'école des enfants y fait 38, Apolline, c'est à la limite de l'acceptable. Il faut climatiser partout et il faut climatiser tout de suite.
C'est politique, vous nous le dites dans un instant. Il est 7h51.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de droite, mais d'abord le bonus. Victor, c'est l'événement hier sur la chaîne YouTube de l'Afterfoot. RMC a trouvé sa nouvelle voix.
Eh oui, la finale des nouvelles voix de l'After, des semaines de compétition à travers les plus beaux stades de France. Et hier soir, les ultimes finalistes se sont mesurés au boss de fin, Daniel Riolo. Puis le gagnant a été annoncé par Gilbert Bribois.
La nouvelle voix de l'After 2026 est Adem.
Adem qui rejoint donc l'équipe de l'After.
Présentez-vous.
Eh bien, on va le présenter. Adem Jouadi, 23 ans, venu de Villiers-le-Bel, étudiant pour devenir prof de sport. Mais avant ça, il a tenté de devenir gardien de but. 1m76, trop petit, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Alors, il est resté coach des gardiens à côté. Il est aussi arbitre en amateur. Mais la vraie question quand on intègre l'After, c'est qui supporte-t-il ? Évidemment, le Paris Saint-Germain. Alors ça veut dire quand même que dans la même semaine, Adem peut aussi devenir champion d'Europe pour la deuxième fois ce week-end. Bienvenue à RMC, Adem.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
C'est la voix de droite ce matin, comme tous les mercredis. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Louis Sarkozy, ce matin, 13 départements de l'ouest de la France sont en vigilance orange canicule. Et face à ces épisodes caniculaires de plus en plus fréquents, Marine Le Pen demande la mise en place d'un grand plan de climatisation. Vous en pensez quoi ?
Je pense qu'elle a raison, Apolline. Il faut climatiser partout, tout le temps et le plus vite possible. Et surtout, arrêter d'écouter ceux qui transforment un problème de santé publique en débat moral. Lee Kuan Yew, l'homme qui a sorti Singapour de la pauvreté, disait « La climatisation est l'invention la plus importante du XXe siècle. Pas la pénicilline, pas l'informatique. La climatisation, parce qu'elle permet à des sociétés entières de vivre, de travailler, de produire dans des climats qui, sans elle, la condamneraient à la léthargie ou la mort. »
C'est très fort, peut-être vous exagérez un peu. La clim, c'est pas vital, si ?
Vous pensez que c'est pas vital ? Allons deux secondes sur les chiffres. La canicule de 2003 en France. 14 800 morts. L'été 2022, près de 7 000 morts liés à la chaleur, c'est les chiffres de Santé publique France. Ce sont des personnes âgées, des nourrissons, des malades chroniques, des gens qui n'avaient pas les moyens, eux, de partir en bord de mer. La canicule en France, c'est une machine, Apolline, à tuer les pauvres. Et pendant qu'on enterre nos morts chaque été, les bureaucrates parisiens nous expliquent que climatiser, ce ne serait pas à la hauteur de l'enjeu climatique. On nous rebat les oreilles avec le réchauffement climatique tous les jours à longueur de journée et on nous interdit la meilleure façon de vivre avec. On préfère laisser mourir des vieux dans des EHPAD plutôt que de toucher au dogme. Malheureusement, c'est ça la France de 2026.
Alors la climatisation, ça pollue, ça aggrave le réchauffement, voilà l'un des arguments.
C'est un des arguments et je ne l'ignore pas. Mais j'écoute ce que disent les vrais spécialistes, pas les militants. Lundi matin, ici même sur RMC d'ailleurs, François Guémen, le spécialiste du climat, le rappelait, il faut intégrer la climatisation dès la conception du bâtiment. Avec les nouveaux systèmes, ventilation double flux, récupération de chaleur, fluide frigorigène, nouvelle génération, on évite l'effet d'îlot urbain. Et puis, pardonnez-moi, soyons sérieux, deux secondes. L'électricité française est l'une des plus décarbonées d'Europe grâce au nucléaire, autour de 55 grammes de CO2 par kilowattheure, contre près de 350 en Allemagne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une climatisation à Lyon pollue 6 fois moins qu'à Berlin. 6 fois moins. La pollution de la climatisation n'est tout simplement pas un enjeu sérieux. C'est une lubie dogmatique de médiévistes nostalgiques, pas un argument.
Est-ce que ça coûte cher ? Tout le monde n'a pas les moyens.
Justement, Apolline, c'est exactement le sujet. Aujourd'hui, qui a la clim en France ? Les magnifiques studios d'RMC, les bureaux du CAC 40, les hôtels 5 étoiles, les ministères. Qui n'en a pas ? Les écoles, les EHPAD, les HLM. La clim en France, c'est devenu un marqueur de classe. Et les comparaisons internationales ici sont accablante. Aux États-Unis, près de 90% des foyers sont équipés. Au Japon, à Tokyo, où il fait 38 degrés en été, avec 80% d'humidité, le taux est à peu près équivalent. À Singapour, la clim est universelle. Et en France, un foyer sur quatre. Aucun autre pays développé ne fait ça. Aucun. On est les seuls à vivre au Moyen-Âge.
Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de refroidir un bâtiment ?
Alors, Apolline, je vais vous donner un exemple très parlant. Vous en avez parlé d'ailleurs ce matin. C'est la gare de Nantes. Eh bien, la gare de Nantes, c'est un cas d'école. Un cas d'école de la bêtise et du gaspillage. Des architectes payés bien sûr par le contribuable qui ont décidé qu'on n'avait pas besoin de climatisation parce que le physique du bâtiment ferait le travail. Le résultat, la fournaise, plus de 40 degrés. La SNCF, comme vous pouvez vous en souvenir, a dû fermer une partie de la gare pendant un épisode de canicule l'été dernier. Voilà ce que ça donne l'idéologie. La bêtise, la bureaucratie, le dogmatisme. Arrêtons de construire des saunas publics, je vous en supplie. Et regardons ce que fait Nice. 1361 classes équipées, salles de classe équipées d'ici la rentrée 2027. Concrètement, méthodiquement, sans brouhaha. Voilà ce qu'on attend d'une collectivité publique.
Bon, vous proposez quoi concrètement?
Alors, très simple. 1. Plan national d'équipement et des bâtiments publics sensibles. Écoles et pas de crèche, on en a parlé. Hôpitaux, services d'urgence, 5 ans, calendrier ferme, financement par redéploiement, pas de hausse d'impôts. Quand on trouve 10 milliards, pardonnez-moi, pour renflouer la SNCF, on en trouve pour ne pas laisser mourir des enfants et des vieux. Parce que si mon fils demain, Pauline, tombe dans les pommes pendant une canicule dans sa salle de classe, pendant que la mairie d'arrondissement tourne à 18 degrés, je pense que je pourrais pas le supporter. Et 2, intégration de la climatisation dans tout permis de construire neuf. Plus jamais un lycée flambant neuf, transformé en hammam 3 mois par an.
Pour vous, c'est une question de civilisation?
Mais c'est un terrible symptôme de la France actuelle. On aurait le droit de se réchauffer l'hiver, mais pas de se refroidir l'été, en plein réchauffement climatique. Mais quel est le sens? Quelqu'un peut m'expliquer le sens? C'est arriéré, bureaucratique, dogmatique, bête, myope. Et malheureusement, ça a des conséquences létales. Il n'en empêche, la climatisation, c'est la civilisation.
Louis Sarkozy ce matin, il est 7h58, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Et la météo, Géraldine nous le dira justement, cette chaleur, elle va se poursuivre encore aujourd'hui.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.